L'Europe en direct sur Graffiti, c'est le rendez-vous de l'information européenne du service de relations internationales de La Roche-sur-Yon. D'habitude, c'est Hélène qui officie à ce micro, mais cette semaine, elle a préféré laisser la place à Noé et Flora. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et pour commencer, vous vouliez nous parler d'un événement qui s'est déroulé ce week-end. Flora.
Oui, effectivement, donc samedi dernier, le 16 mai, c'était la finale du concours de l'Eurovision 2026.
Ah oui, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rendez-vous de l'Eurovision ?
Eh bien, l'Eurovision, c'est un des plus anciens programmes télévisés au monde et c'est le plus important concours musical jamais organisé. Alors à la base, il ne portait pas ce nom au départ, mais plutôt le nom de Grand Prix Eurovision de la chanson européenne. Et c'est né dans les années 1950 avec une volonté des dirigeants politiques de l'époque de créer davantage de liens forts entre les pays européens. Et donc on vient créer l'Union européenne de radio-télévision.
Mais Noé, est-ce que tu pourrais me dire en quoi cette organisation est utile et qu'est-ce que ça apporte ?
Et justement, l'organisation elle permettait de réunir les radios et les télédiffuseurs publics des principaux pays membres. Par contre, il faut attendre 1955 pour que les diffuseurs membres ils se penchent sur la création d'un événement avec Marcel Besançon, directeur général de la télévision publique suisse, qui propose un festival de musique et le projet qui fut adopté rapidement.
Ok, et quelle est la date de la première diffusion de l'Eurovision ?
C'est le 24 mai 1956 en Suisse que s'est déroulée la première édition du programme. Alors au départ, il y avait 7 pays à participer, mais ce nombre il a rapidement augmenté et aujourd'hui on est à une quarantaine de pays participants chaque année.
Mais par contre, je ne sais pas qui peut participer, est-ce que tu pourrais m'en dire davantage ?
Alors, ceux qui peuvent participer, c'est ceux qui diffusent le contenu de l'organisation. Alors, certains de ces pays sont en dehors de la zone européenne de radiodiffusion, mais pour participer, ils doivent malgré tout faire partie du Conseil de l'Europe.
Et est-ce que l'Eurovision a gardé des symboles importants par hasard ?
Oui, bien évidemment. On a notamment l'œuvre musicale « Te Deum » de Marc-Antoine Charpentier qui se joue en introduction du programme ou encore le chœur qui remplace le V d'Eurovision et qui symbolise l'unité et la diversité. Et donc, ça rappelle notamment l'esprit fédérateur du concours.
Et qui était le gagnant de l'Eurovision cette année ?
Eh bien, c'est la Bulgarie qui a remporté la compétition ce samedi 16 mai. Et du coup, ça signifie que l'année prochaine, le concours se déroulera dans ce pays puisque le pays qui remporte l'Eurovision doit organiser l'événement l'année suivante. C'est pour ça que cette année, du coup, le concours il s'est déroulé à Vienne après la victoire de l'Autriche l'année dernière. Alors, on pourrait penser que c'est un détail, mais c'est quand même bénéfique puisqu'organiser la compétition, ça permet d'attirer les regards sur le pays et sa culture. Mais l'Eurovision, par contre, c'est plus qu'un simple concours de chant.
Et oui, tu as raison, car l'Eurovision, c'est aussi le moment de souligner le multilinguisme au sein de l'Union européenne. Les 35 pays qui ont participé au concours cette année, d'ailleurs, ont chanté dans des langues très diverses. L'Eurovision est donc le moment pour rappeler la diversité culturelle et linguistique au sein de l'Union européenne. Le hasard fait bien les choses, car en tout, on a eu des chansons dans 24 langues différentes à Vienne ce week-end. 24, c'est aussi le nombre de langues reconnues officiellement par l'Union européenne.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, s'applique aussi à la diversité linguistique. L'Union européenne reconnaît des langues comme le français, l'anglais, le bulgare, le maltais ou encore le finnois. Cette diversité permet à tous les citoyens de l'Union européenne de s'exprimer dans leur langue d'origine au niveau des institutions européennes.
Et du coup, concrètement, ça implique quoi ?
Dans les faits, ça veut dire que les textes juridiques de l'Union européenne sont publiés dans chacune de ces 24 langues. Les citoyens de l'Union européenne peuvent contacter les institutions européennes dans chacune de ces langues et même au Parlement européen, une traduction des débats est possible dans l'ensemble des langues officielles de l'Union européenne. Cela permet aux individus de parler et protéger leur langue maternelle au niveau européen, même si c'est une langue minoritaire. Cette diversité linguistique est aujourd'hui un élément fondamental de la diversité culturelle de l'Union européenne.
Et l'UE, justement, elle agit pour soutenir cette diversité linguistique ou pas ?
Alors oui, tout à fait. L'Union européenne finance par exemple des projets en faveur de la diversité linguistique et culturelle. Par exemple, l'Eurovision qu'on évoquait en début d'émission est un très bon moment pour souligner et promouvoir cette diversité linguistique au sein de l'Union européenne et dans des pays voisins aussi. Aujourd'hui, les citoyens de l'Union européenne sont plutôt favorables à l'apprentissage des langues étrangères et même avec Internet, la traduction est facilitée dans l'ensemble des langues, ce qui permet de préserver et promouvoir des langues locales. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'Union européenne et sa diversité linguistique et culturelle, n'hésitez pas à vous rendre dans les nouveaux locaux du service Relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon, au 13 rue Lafayette, à quelques pas de la place Napoléon.
Merci à tous les deux. Donc pour ce point sur l'Eurovision, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle Europe en direct. À bientôt.